fait, l'idée, même si moi, tu vois, j'ai fait un conducteur, l'idée, c'est quand même que c'est une discussion, quoi.
D'accord.
Ramsey
Store. C'est pas une interview sur France Inter.
D'accord.
C'est l'autre radio et.
L'émission.
D'accord.
On discute tous les deux. Alors, bah, je vais faire un petit test pour voir.
Ouais. Transistor.
Je te laisse parler.
Ça a l'air de marcher.
Ça marche.
Ça module.
Et si on prenait le temps? Le temps d'une discussion, d'un portrait sans l'image, mais avec le son. Le temps de rencontrer un passeur d'images. Car depuis près de 25 ans, notre invité, Wilfried Jude, n'a jamais cessé de transmettre sa passion du cinéma. Notamment auprès des jeunes, lors de ses multiples expériences en tant qu'intervenant pour des ateliers de création audiovisuelle, ou bien en tant que médiateur ou coordinateur de dispositifs d'éducation à l'image. Aussi réalisateur à 16 heures, il est aujourd'hui directeur artistique d'Atmosphère 53, avec toujours la même mission, celle de la transmission. Le voici passé de l'éducation à la programmation. Il est désormais le pilote artistique des temps forts de l'association Mayonnaise, dont le festival Les Reflets du cinéma, qui fêtera dès le 15 mars prochain le cinéma canadien. Bonjour Wilfried.
Bonjour.
Et merci déjà de nous accueillir ici à Mayenne, dans les bureaux d'Atmosphère 53. Par la fenêtre, on voit la Mayenne qui passe. Alors c'est un peu gris aujourd'hui, c'est pas hyper riant, mais quand même, belle vue sur le château.
On a une belle vue, oui.
Ouais, et dans un beau bâtiment qui s'appelle la Maison du Travail. Moi, je trouve ça assez chouette. On a les syndicats près de chez vous, c'est bon. Si vous voulez vous défendre, il y a ce qu'il faut. Il y a plein d'affiches au mur. Hein, on sent bien qu'on est dans les locaux d'une asso, je trouve. Un petit matériel du mobilier de récup, des affiches de cinéma partout.
Oui.
Et voilà, on sent qu'ici, il y a une ambiance plutôt conviviale dans ces bureaux, j'ai l'impression.
Oui, on a la chance d'avoir une super équipe et puis on est tous très, on travaille tous en très bonne intelligence et avec beaucoup de convivialité et beaucoup de, on s'amuse bien, on aime notre métier et on s'entend tous très bien.
Ouais, il y a quelque chose qui transpire ça en tout cas. Même si aujourd'hui c'est un peu calme, hein. Il y a du télétravail dans l'équipe, il y a des congés, vous n'êtes pas très nombreux, mais en fait dans l'équipe vous êtes quand même 6 à Atmosphère 53.
On est 7.
7, pardon.
7 plus 2 services civiques.
C'est vrai, exactement. Alors là on est dans la salle de pause, j'ai l'impression, on n'est pas dans ton bureau.
C'est ça.
Yes.
Donc dans la salle de pause qui nous sert de salle de réunion et de salle où on reçoit nos invités aussi. Yes. Voilà.
Et alors, il y a toujours des affiches au mur, dont en petit, puis il y a plein de programmes autour de nous aussi, des prochains reflets du cinéma, hein, puisque ça approche. L'édition sera du 15 mars, je regarde l'affiche, au 24 mars. C'est bon, vous êtes prêts, vous êtes dans la dernière ligne droite, là, on est à quelques jours du festival, tout est OK, tout est prêt.
Alors, il y a encore certains films qui doivent arriver, mais...
Ah ouais, mais... Ils arrivent comment? Ils arrivent par bateau?
Non, mais parfois ils arrivent en physique, hein, ouais. Donc voilà, il y a encore certains films qui...
Ils se grattent la tête en disant ça.
Il y a encore certains films qui sont... Je suis en train de suivre leur cheminement vers les salles, donc, mais ouais. On a encore près de 3 semaines devant nous, donc ça devrait bien se passer.
Ok, ça marche. 3 semaines, parce qu'on enregistre cette émission un petit peu avant, mais quand elle sera diffusée, ça sera juste la semaine qui précède. C'est ta deuxième édition du festival, mais ta première, puisque toi, t'es arrivé en octobre 2022, mais c'est la vraie première édition que tu fais, que t'as programmée en entier. L'année dernière, c'est les reflets du cinéma brésilien, et que t'avais programmé à moitié, parce que t'es arrivé en cours.
Oui, effectivement, l'an dernier, j'en avais programmé qu'une partie. Alors que là, effectivement, c'était ma première édition dans son entièreté. Donc voilà. Et il a fallu. Ce qui est intéressant avec les reflets du cinéma, c'est qu'il faut rechercher une cinématographie différente chaque année. Donc c'est palpitant, c'est aussi difficile, mais c'est très intéressant d'aller faire un regard sur une cinématographie particulière et celle d'un pays en particulier, effectivement.
C'est un vrai challenge, d'autant qu'en plus, le métier de programmateur, c'est un nouveau métier pour toi.
Alors effectivement, j'ai un peu fait...
On y reviendra tout à l'heure, hein, en détail.
Oui,
mais...
j'ai un peu fait d'atelier de programmation, mais effectivement, c'est un challenge pour moi, ce nouveau poste. Enfin, ce nouveau... ça fait un an et demi quand même, mais oui, il a fallu aussi que je me déconstruise et que je change de paradigme sur certains points de mon travail, oui.
On va y revenir en détail, on va avoir toute cette émission pour parler de tout ce que vous faites ici à Atmosphère 53. On sera sans doute pas exhaustif, mais en tout cas, on parlera notamment des reflets. Pour le générique et le pitch de cette émission, on est bon. Transistor, l'émission, épisode 134, c'est parti, action.
Elle avait toujours dans son porte-monnaie l'île au trésor et des pièces de 1 franc usées. Un pinceau de poil de Marthe pour mettre des rideaux bleus aux fenêtres de ses yeux, aux fenêtres de ses yeux. Un livre à la main sur le balcon, elle s'endormait dans un vieux fauteuil de manille. Je cherchais des prénoms, Mathieu, Cécile, en regardant courir vers 10 heures dans l'école des filles et des garçons. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dans mon cœur vaudou, il y a 4 épingles qu'elle a pris soin d'abandonner pour que je pleure. J'ai cloué ma porte, qu'est-ce qui m'a pris? J'ai brisé le miroir où elle faisait ses tresses, mis du papier journal sous les fenêtres. J'entendais de l'école trop de cris, il n'est rien né de notre lit. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi.
Michel Jonas, Dites-moi, en 1974, soit si mes calculs sont bons, juste un an après la naissance de notre invité, Wilfried Jude, directeur artistique d'Atmosphère 53. Wilfried, d'abord, pourquoi ce choix? Peut-être que tu as été bercé, c'est le cas de le dire, par Michel Jonas. Est-ce qu'on écoutait ça à ta maison, est-ce qu'on écoutait ça à la maison, chez tes parents, voilà, est-ce qu'on écoutait de la musique d'ailleurs, chez les Judes?
Oui, on écoutait de la musique et beaucoup de chansons françaises. Hein. Mon père est un grand amateur de chansons françaises. Et donc, il m'a fait découvrir Jonas un peu plus tardivement, quand j'étais plutôt pré-ado. Et je suis toujours resté très très fidèle à Michel Jonas. Je connais à peu près toutes ses chansons par cœur.
Tu m'avais proposé 3 morceaux, j'ai dû choisir.
Voilà.
Toi, tu n'avais pas su choisir.
Bah, je trouve que Dites-moi, c'est une chanson qui est un peu fondatrice de la carrière de Michel Jonas. C'est une chanson très bien écrite, ouais. Très bien pensée. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y avait plusieurs choix, mais c'est très bien que celle-ci ait été retenue. Voilà.
Alors, toi, tu as grandi à Niort, dans les Deux-Sèvres. Tu dis que dans la maison familiale, il y avait de la musique. Est-ce que aussi tes parents t'emmenaient au cinéma, puisqu'on va beaucoup parler cinéma? On peut imaginer en tout cas qu'il y a eu une transmission aussi de ce côté-là, ou pas peut-être?
Pas tant que ça, non. Ouais. Non. Mes parents allaient au cinéma, mon père aimait bien aller au cinéma, mais on y allait assez peu. pour des raisons différentes. Moi, j'ai plutôt regardé les films à la télé. Mmh. J'ai commencé à aller au cinéma beaucoup plus régulièrement à partir de la préadolescence, à partir de 12 ans.
Ouais.
Là, j'y suis allé beaucoup après. Mais j'y allais une fois par semaine quand j'étais ado. Et j'allais pas forcément voir les gros titres. Mais par contre, mes parents m'ont transmis le goût de la culture, ça c'est sûr.
Mmh, mmh, mmh.
C'est-à-dire que je suis issu d'une famille de petite classe moyenne, mais par contre avec un accès à la culture qui était, et un encouragement à aller vers la culture qui a toujours été présent dans la famille.
Mmh, mmh.
Donc ça c'était important à souligner.
Et le cinéma, comment ça vient du coup? C'est quoi, il y a des... Qu'est-ce qui fait, parce que c'est pas forcément... si courant que ça, un ado qui va une fois par semaine au ciné, enfin j'en sais rien, à l'époque en tout cas, mais voilà, est-ce qu'il y a des chocs, des choses qui à un moment font que c'est ce médium-là qui t'accroche?
Alors ça, c'est arrivé un peu plus tard, c'est-à-dire que c'est un peu arrivé, moi j'ai fait, au lycée, j'ai fait une section art appliqué,
ouais.
Donc ça s'appelle ST2A, je crois, aujourd'hui. Donc on avait accès à tous les métiers artistique.
Et pourquoi tu destines, pourquoi déjà tu prends ce bac là?
Ah ouais, parce que j'avais une appétence pour le dessin beaucoup.
Ah voilà.
Voilà, le dessin. Je faisais quand j'étais ado, entre 12 et 14 ans, on a fait un fanzine avec mon cousin et des copains dans lequel on dessinait beaucoup. On faisait un fanzine culturel où on faisait aussi des critiques de cinéma déjà.
Ah ouais.
Donc ça nous a bien tenu quand on était au collège.
C'était quoi les influences du dessin? C'était plutôt la BD ou...
Ah oui, c'était de la BD, ouais. Oui, ouais. Oui, c'était très influencé
par la BD.
C'était
quoi les auteurs? BD, cinéma, il y a plein de liens d'ailleurs.
Oh, mais quand j'étais pré-ado, en tout cas avant de... J'étais vraiment sur les classiques, rien de bien original.
Ah, la franco-belge.
Voilà, franco-belge, Tintin, Gaston Lagaffe, etc. Mais... Après, j'ai animé une émission de radio quand j'étais adolescent, à 12 ans.
Ah ouais.
Entre 12 et 14 ans aussi, en même temps à peu près que le fanzine que j'ai fait quand j'étais au collège. Et par contre, là, j'ai découvert la BD pour adultes, peut-être parfois même un peu prématurément, on va dire.
Et
donc là, j'ai commencé à avoir des chocs esthétiques beaucoup plus forts.
Est-ce qu'on peut parler d'un auteur en particulier, de choses qui te...
Qu'est-ce qui m'a marqué quand j'étais ado comme ça? Ouais, je sais que Manara m'a beaucoup marqué,
okay.
Pour plein de raisons différentes.
BD pour adultes, ouais. Okay.
Voilà, mais aussi... non, après, les auteurs de BD qui m'ont vraiment marqué, c'est arrivé bien après. C'est-à-dire que là...
C'est la BD d'auteur, quoi.
C'était la BD d'auteur, ouais, pas mal. Ouais, ouais, ouais. Et la BD aussi... oui, parce que je lisais moins les grandes BD grand public quand je faisais cette émission de radio. J'avais une librairie qui me prêtait toutes les nouveautés.
Ah ouais,
ouais, c'est
du fait que tu étais journaliste, entre guillemets.
Exactement, voilà. Et j'avais le droit à lire toutes les nouveautés par semaine. Donc...
En tout cas, il y a déjà ce goût-là. Je ne me trompais pas quand je disais en intro le goût de la transmission. Parce que finalement, faire une émission de radio, faire un fanzine, c'est vouloir partager, non? C'est vouloir dire, bah, écoutez, j'ai lu ça, j'ai écouté ça, j'ai vu ça. Je vous en parle parce que ça serait, j'ai envie de vous faire découvrir.
Oui, 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 c'est effectivement, il y avait déjà ça, envie de parler des choses que j'aimais,
ouais.
et qui me semblaient intéressantes. Alors à 12 ans, on n'a pas forcément l'analyse pointue.
Le recul critique.
Ou le recul critique.
Ouais, c'est la fougue de l'adolescence, là.
Mais effectivement, j'ai eu beaucoup de chance de faire ça quand j'étais pré-ado, là. J'étais très content, ça m'occupait aussi beaucoup. J'ai pu interviewer des auteurs de BD que j'aimais. Si, j'avais quelqu'un que j'aimais beaucoup à l'époque, c'était Loisel.
D'accord.
Donc, avec sa BD La quête de l'oiseau du temps, qui était un auteur que j'adorais. J'adorais son dessin, etc. Donc, il y avait François Bourgeon, il y avait. Non, ça y est, ça me revient maintenant.
Et donc, du coup, tu fais ce bac art appliqué qui t'emmène après vers une école, l'Institut des Arts Visuels d'Orléans, qui est une école. D'art, en fait,
voilà.
Une école supérieure d'art, avec déjà l'idée du cinéma derrière. Parce qu'il y avait une option à la fin de la scolarité, en cinquième année, quatrième année, cinéma.
Oui, c'est ça.
Et là, déjà, dans ta tête, excuse-moi, il y a déjà, dans un coin de ta tête, l'idée de te diriger vers le cinéma.
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour mon projet de bac, on avait un projet de bac quand on était en art appliqué, j'ai fait un film. Et
ah oui.
Oui, et donc j'ai choisi les Beaux-Arts d'Orléans parce que j'avais vu qu'il y avait une section cinéma en quatrième année après le premier diplôme. Donc j'ai fait l'option communication, enfin section communication, option cinéma. Voilà, et donc j'ai fait un film pour ma fin de ma troisième année et pour passer mon premier diplôme, et ensuite j'en ai fait un autre pour ma cinquième année.
Pour la fin du cursus.
Pour la fin du cursus.
Et est-ce que ce moment-là, il y a l'idée, le rêve de faire du cinéma, d'être réalisateur, c'est ça qui te guide à ce moment-là ou...
Oui, l'idée, oui. Le destin a fait que j'ai fait autre chose, mais effectivement, l'idée, c'était d'essayer de faire des choses autour de l'audiovisuel, oui. Mmh.
Et finalement, le destin t'a emmené vers autre chose. Et cette autre chose, ça a été notamment l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation à l'image. Tu as travaillé notamment beaucoup sur un dispositif d'éducation à l'image pour les jeunes qui s'appelle Passeur d'image. Comment ça s'est fait, ce passage-là, justement, et, en sachant qu'on on peut avoir dans ce type de boulot d'éducation à l'image aussi des ateliers, finalement, où on aide à les élèves, les jeunes, à réaliser des choses. Il n'y a pas juste que de la théorie de cinéma ou quoi, il peut y avoir vraiment des... Ou c'est pas que d'emmener des enfants voir des films, c'est aussi mettre la main à la pâte.
Tout à fait. Oui. Mmh. Ben, en fait, j'ai commencé par encadrer un chantier d'insertion par l'audiovisuel dans le 20e arrondissement au début des années 2000.
À Paris.
Donc voilà. Et puis en parallèle, j'écrivais avec des amis, on essayait de faire du documentaire. On avait commencé à écrire un documentaire qu'on voulait présenter à Striptease à l'époque, l'émission.
L'émission belge.
C'était très, c'était pas facile. Fallait, voilà. Et puis j'ai été cadreur pour un ami qui a fait un film qui s'appelle Julien. J'avais quand même une petite activité dans l'audiovisuel, mais je faisais aussi du graphisme à côté. J'étais décorateur de théâtre aussi.
Ah oui, d'accord. Enfin, voilà.
Donc j'ai,
plus réactif.
Voilà, j'ai fait plusieurs choses et j'ai encadré cet atelier. C'était la grande époque, la grande époque où l'éducation aux images commençait à se développer. Ouais. Et puis ensuite, effectivement, j'ai continué et j'ai eu ce poste en région centre en 2003. Donc je suis devenu coordinateur pour le dispositif passeur d'images qui s'appelait à l'époque Un été au ciné, Cinéville.
Perdu pour perdu, autant ne plus avoir de souvenirs, pas plus que de mémoire, la mémoire, vois-tu, je n'y tiens plus. Foutu pour foutu, autant ne plus savoir, avais-je trop couru? Étais-je seul dans le noir? J'ai tout confondu et je ne sais plus. Peut-être que j'avais froid, peut-être que j'avais peur. Je ne sais plus pourquoi, pourquoi battait mon cœur. Allons, regarde-toi, doit être une erreur. Ce n'est sûrement pas ça. Pourquoi battait mon cœur? Perdu pour perdu, autant ne plus avoir à s'avouer vaincu. S'effacer de l'histoire, notre histoire, vois-tu, je n'y tiens plus. Autant ne plus savoir, peut-être que j'avais bu de ce café trop noir, j'ai tout confondu et je ne sais plus. Peut-être que j'avais froid, peut-être que j'avais peur. Je ne sais plus pourquoi, pourquoi battait mon cœur. Allons, regarde-toi, doit être une erreur. Ce n'est sûrement pas ça. Pourquoi battait mon cœur?
les raisons pour lesquelles il battait tant et plus. Non, je ne me rappelle plus, ne me rappelle plus. Oublie-moi, veux-tu? Foutu pour foutu, les raisons, mais lesquelles s'en battre tant et plus. Et si tu me rappelles, numéro inconnu, je t'oublie, moi, vois-tu? Peut-être que j'avais froid, peut-être que j'avais peur. Je ne sais plus pourquoi, pourquoi battait mon cœur. Allons, regarde-toi, ce doit être une erreur. Ce n'est sûrement pas ça, pourquoi battait mon cœur.
Alex Baupin, chanteur, auteur, compositeur, qui a d'ailleurs signé la musique de plusieurs films de Christophe Honoré. Ce qui n'est sans doute pas étranger à ce choix musical de notre invité, à Wilfried Jude, avec qui nous poursuivons notre discussion. On évoquait juste avant, Wilfried, tes expériences autour de l'éducation à l'image. Là, c'est quoi ? C'est la même envie de transmettre qui te plaît aussi dans ce boulot-là, autour de l'action culturelle, l'éducation à l'image.
À l'époque, oui, ouais, oui, ouais. Effectivement, oui, oui. J'ai eu la chance d'être dans les années, les belles années de l'éducation aux images. Aujourd'hui, ça s'est institutionnalisé, c'est ce qui est très très bien, avec les médiateurs, etc.
Là, c'était un peu plus foufou, un peu plus créatif.
Enfin, voilà, on était dans une créativité, ouais. On était obligé d'inventer et de réinventer en permanence les choses. Alors aujourd'hui, je ne dis pas qu'on n'invente plus, hein. Au contraire, avec les nouvelles technologies, au contraire, ça s'est même simplifié.
Ça a allégé vachement.
Ça a allégé, oui. Le matériel.
Bien plus de choses.
Le matériel, plus le matériel est facile à utiliser, plus on peut aller en profondeur dans l'éducation aux images. Donc ça a été un grand tournant au milieu. Ouais. Au début des années 2010, ça a été un vrai tournant. J'ai travaillé. Oui, ce dispositif, moi, il me tient beaucoup à cœur. C'est un dispositif qui travaille sur le hors temps scolaire, passeur d'image. Et donc, on allait travailler avec les publics qui portent plusieurs noms. Alors,
je vois.
Je préfère dire public spécifique. Donc, je travaillais en prison. J'ai travaillé avec les quartiers, ouais. J'ai travaillé en hôpital psychiatrique, j'ai travaillé en milieu rural.
Tous ceux qui n'ont pas forcément accès facilement, en fait.
Exactement. Mmh. Donc, on a pu mettre en place des super projets, des projets très ambitieux. Voilà, et je suis allé un peu traîner en Afrique pour mettre en place des concours de cinéma faits au téléphone portable.
D'accord.
Et puis après, je suis allé m'installer en Guyane pour développer le pôle régional d'éducation aux images de la Guyane par le biais d'une association qui s'appelle le Polymage Maroni.
Alors, avant d'arriver ici en 2022, t'as signé un film aussi en tant que réalisateur, un court-métrage qui s'inscrive aussi dans ton parcours, parce que tu t'as évoqué aussi tout à l'heure le fait que tu as été cadreur, directeur de la photo pour des films avec des amis, que tu as aussi signé des, on l'a pas dit, on va pas pouvoir tout dire, des séries documentaires, voilà. Et tu, juste avant d'arriver ici, tu fais un film, peut-être parce que voilà, c'était aussi un aboutissement de aller au bout d'une créa, quoi, personnelle.
Ben, disons que j'avais des projets de court-métrage que j'ai essayé de faire produire et ça, il s'est avéré que c'était compliqué. Et c'est un métier où il faut être extrêmement opiniâtre. Il faut être très très sûr de son fait. Ces films-là, je ne désespère pas de les faire de les faire produire un jour, mais bon, ça fait un peu longtemps que je les ai écrits maintenant. Et par contre, ce film-là, j'en ai eu marre, j'ai fait un film à la maison, quoi.
Ouais, à la punk. Allez, je le fais.
Voilà, j'ai fait un film guérilla, un film que j'avais fait des
images... Terra Incognita, il s'appelle.
Voilà. J'avais fait des images fixes en 2016, et j'ai, à partir de ces images fixes, de ces photos, j'ai fait un film. Voilà. Voilà, c'est un film... Ouais, c'est un film qui parle de mon rapport aux femmes.
Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Terra Incognita. Et juste avant d'arriver ici, et ensuite, tu arrives ici en octobre 2022, après tout ce parcours. Et qu'est-ce qui fait que tu postules à l'offre? Qu'est-ce qui fait que tu es attiré par cette offre d'embauche, quoi? Et qu'est-ce qui t'intéresse dans le projet?
Changer un peu de métier, ça j'avais envie, ça me semblait parce que peut-être que je m'épuisais un peu dans l'action culturelle et dans l'éducation aux images. Je me sentais un peu ringard des fois même. C'est pour ça que je me suis abonné à TikTok, entre autres.
okay.
Donc voilà, je suis sur TikTok toute la journée, enfin quand je ne travaille pas évidemment. Et puis j'avais du mal à renouveler mes pratiques d'éducation aux images.
C'est pas une blague TikTok, j'ai l'impression en plus.
Ah non, c'est pas une blague, non, c'est très sérieux, même si voilà.
Ça renouvelle le genre TikTok.
Ça renouvelle certaines choses, ouais. Oui, la manière de monter, la manière d'écrire, la manière de... Enfin, en tout cas, les réseaux sociaux, on explore des formes d'écriture qui sont un peu différentes, les vidéos sur YouTube, etc. Donc ça peut m'intéresser dans le cadre de l'action d'éducation aux images.
Ouais, okay.
J'ai même montré, dans le cadre de l'écriture documentaire, certains épisodes de certaines chaînes YouTube en posant la question à des lycéens, est-ce que c'est du documentaire? Voilà.
Alors, fin de la parenthèse TikTok, on revient sur Atmosphère 53.
Oui,
voilà. Envie de changer de métier.
Oui, donc c'était comme je me sens...
De tenter quelque chose de neuf.
Voilà, je trouve que le poste était très alléchant, très, très palpitant. Donc effectivement, j'ai eu la chance de... Enfin, j'ai postulé. Et j'ai eu la chance d'être pris, donc c'est vraiment un poste qui me remet en mouvement, qui me remet en discussion aussi, parce qu'en tant qu'intervenant, parce que j'ai eu cette période où j'étais intervenant indépendant, là j'ai une équipe autour de moi, avec un travail de groupe, avec
la fin de la solitude de l'intervenant.
Voilà. Puis il y a des préoccupations qui vont au-delà de moi. Qu'est-ce que c'est que cette association? Qu'est-ce qu'elle défend?
Alors qu'est-ce qu'elle défend justement? Je saisis la perche.
Atmosphère 53 est une association de réseaux de salles de cinéma qui donc on travaille avec toutes les salles du département. Il y a 11 salles dans le département. Et donc le principe, c'est de leur proposer des choses autour du cinéma d'art et d'essai. Donc plusieurs événements, mais aussi on est cellule de veille sur les transformations qu'il y a dans le milieu juridique, technologique. On est là aussi pour les informer, parce que toutes les salles, alors certaines sont très au fait et d'autres le sont un peu moins.
Oui, parce que c'est des salles associatives ou gérées par une toute petite équipe.
Exactement, on a beaucoup de salles associatives sur le département. Enfin, on a beaucoup de salles. Il y a certaines salles associatives sur le département. Donc notre boulot aussi, c'est de les informer, de leur proposer des formations, de leur proposer des journées de prévisionnement aussi, quand on peut, et puis de leur proposer des choses.
Prévisionnement, ça veut dire d'aller voir des films en avant-première?
Exactement. Okay. Et donc, ils participent tous aux grands événements d'Atmosphère 53. On fait plusieurs choses avec les salles de cinéma du département. Oui.
C'est une association d'éducation populaire. Je crois que c'est important aussi pour vous défendre ça.
On fait beaucoup, beaucoup d'actions culturelles. J'ai plusieurs collègues qui sont dédiés à l'action culturelle. Donc Estelle qui s'occupe des scolaires. Donc on a trois dispositifs scolaires.
Alors attention, tout est sur des petits post-it.
Attention post-it. on a trois dispositifs, dont deux maisons. C'est-à-dire qu'il y a des dispositifs scolaires nationaux.
Ouais, et dans lesquels vous allez vous inscrire, quoi.
Alors, nous, on s'inscrit essentiellement dans collège ou cinéma. Mais autrement, on a un dispositif maison qui s'appelle Ciné-enfant et un autre qui s'appelle Ciné-lycéen. Et donc, beaucoup d'enfants vont au cinéma. C'est-à-dire que sur Ciné-enfant, c'est 10 000 enfants par trimestre. En fait, ils vont voir, c'est les mêmes enfants qui vont voir deux films dans l'année.
Ouais.
Pour collège au cinéma,
c'est voir pas... gratuitement, quasiment gratuitement. Enfin, en tout cas, c'est très abordable.
C'est peu cher, mais mais c'est pas gratuit, non. Ensuite, il y a collège au cinéma. Donc ça, c'est un dispositif national qu'on co-coordonne en région avec le Cinéville de Laval. En département.
Voilà.
Excusez-moi. Donc là, c'est pareil, c'est 5000 élèves qui vont 3 fois au cinéma dans l'année. Et puis, on a ensuite ciné-lycéen. Donc là, sur l'automne 2023, on a eu 2500 lycéens. Et sur les reflets, on n'a pas encore les chiffres.
Oui, parce que sur vos événements aussi, il y a des séances qui sont proposées aux scolaires.
Alors,
et ce n'est pas que des séances aussi, c'est aussi un accompagnement une préparation à aller voir les films. Il y a aussi tout un travail autour des films.
Tout à fait, il y a présentation des films. Ouais. Et en tout cas, sur les films, des dispositifs, il y a présentation des films, formation des professeurs.
Oui, ouais, c'est ça.
Ça, c'est super important.
Ouais. Ce n'est pas juste des one-shots comme ça, quoi. Truc autour.
Il y a un travail qui est effectué en classe après, donc c'est super important. Et puis, par contre, on a aussi sur nos événements des séances scolaires,
ouais, c'est ça.
En plus.
Pourquoi c'est important de faire de l'éducation à l'image ? D'abord peut-être pour déjà proposer une diversité de choses auxquelles n'ont pas forcément accès les élèves.
Oui, c'est pour proposer d'autres manières de voir le cinéma. Ce sont des alternatives à des films, j'allais dire, très massifs, très grand public.
Des blockbusters.
J'ai rien sur le principe contre les blockbusters, mais on pourrait parler de leur empreinte carbone, on pourrait parler de plein de choses. mais effectivement, moi, je pense que c'est super important de travailler une éducation au cinéma, oui. Moi, je suis né avec ça, je suis né avec ces dispositifs, et donc, enfin, je suis né professionnellement, on s'entend. Et il me semble important que les enfants puissent voir des films et se construire un œil critique et un regard sur le monde grâce aux films.
Il y a aussi la volonté d'accompagner les films. Beaucoup de ce que vous proposez, que ce soit à travers les reflets, mais aussi d'autres festivals comme le Festival du film judiciaire ou le Festival Cinéma et Santé, qui sont accompagnés de rencontres. Enfin, il y a l'idée aussi que le cinéma, c'est pas juste on va voir un film, c'est aussi on peut en discuter après, analyser les choses, rencontrer les gens qui les ont fait.
Effectivement, c'est-à-dire que au-delà des dispositifs scolaires et au-delà de ce qu'on peut faire à l'année, sur nos événements, on essaye de faire rencontrer quelqu'un avec le public. Ça nous semble très important de pouvoir échanger autour des films, de pouvoir verbaliser autour d'un film, même si on n'a pas aimé, même si on a été dérangé, même si on a été... Et donc sur ces deux événements, le Festival du film judiciaire de Laval et les rencontres cinéma et santé, effectivement, chaque séance bénéficie d'une rencontre avec un professionnel du cinéma et, dans la mesure du possible, un professionnel de santé et un professionnel ou un professionnel du droit quand il s'agit du film judiciaire de Laval.
Et ça donne quoi, ces espaces de discussion ?
En général, la plupart du temps, ça se passe bien. Ouais. La plupart du temps, le public est content de rencontrer des gens.
C'est un espace de parole aussi, quoi.
C'est un espace de parole, c'est un espace d'apprentissage. C'est-à-dire que... c'est aussi intéressant de savoir comment on fait un film, quels sont les processus qui aboutissent à un point de vue sur le monde qu'est un film. Et puis quand il s'agit du Festival du film judiciaire ou des rencontres cinéma et santé, c'est aussi avoir un éclairage plus technique, soit sur une question de droit, soit sur une question de santé, en fonction du sujet du film, évidemment.
Tu parlais tout à l'heure du réseau de salles que vous animez. Quel regard, toi, tu portes, t'es arrivé ici depuis un peu moins de 2 ans, quel regard tu portes sur ce réseau-là, sur le département ?
Moi, je trouve que le département est très bien maillé en termes de cinéma. On a de la chance d'avoir ces 11 cinémas sur le département. Je trouve que chaque salle fait un boulot incroyable pour dynamiser et pour faire vivre son cinéma. Donc c'est pas toujours facile en milieu rural,
ouais.
Mais je trouve que nos salles prennent des initiatives, elles ont des programmations de qualité, elles sont obligées de faire aussi dans le grand public pour pouvoir vivre tout simplement, mais elles sont toujours ouvertes à des choses plus pointues, un peu différentes. Donc on a de la chance de travailler avec eux.
Nous poursuivons cette discussion tout de suite après cette pause musicale. Never Gotta Not Dance Again par Pink. If someone told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I wouldn't start a fight. You could have my liquor, take my dinner, take my fun, my birthday cake, my soul, my dog, take everything I love. But oh, one thing I'm never gonna do is throw away my dancing shoes. And oh Lord, don't try me, really not tonight. Regarder des films, c'est un beau métier. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est notre invité, Wilfried Jude. Être programmateur et directeur artistique d'Atmosphère 53, Wilfried, c'est d'abord ça, c'est regarder des films.
Ah oui, c'est regarder des films et puis essayer d'être toujours au plus juste possible sur les films qu'on propose. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi, à un moment donné, négocier entre ses propres goûts et
l'éternel combat du programmateur
et l'objectivité qu'on se doit d'avoir sur un film. Parce qu'il y aurait que moi, je programmerais que des films d'horreur, mais Donc non, en fait, pas que. Des films expérimentaux aussi. Mais parce que moi,
j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi ce goût-là chez toi.
J'ai une appétence pour le cinéma expérimental, effectivement. Mais heureusement, on a la chance en France d'avoir quand même des films de qualité qui sortent. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes à montrer. Donc il n'y a que l'embarras du choix pour le travail que je fais.
Mais tu les regardes où, les films? Parce que je n'ai pas vu de salle de projection ici. C'est chez toi que tu fais ce boulot-là?
Alors, on a plusieurs manières de regarder les films. Soit on demande au distributeur des films si on peut avoir un lien sur le film.
Pour le voir avant.
Pour le voir avant. Ouais. Soit on va sur la plateforme, c'est une plateforme de l'Association française du cinéma d'art et d'essai, qui a une plateforme de visionnage en ligne. Donc là, il faut être abonné, etc. Soit je vais à Cannes.
À Cannes.
Voilà.
Comme ça.
Je suis allé à Cannes pour la première fois de ma vie en 2023 et j'ai regardé 55 films en deux semaines.
Okay. Donc, à la fin, tu avais les yeux tout rouges.
Ah oui.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, tu travailles toute la journée au bureau et que tout ça, tu le fais le soir, quoi, en fait, non?
Non.
En fait, des fois, en pleine journée, allez, j'aime regarder un film.
Il arrive que je regarde des films sur le temps de travail, effectivement, oui. Notamment pour les reflets. Oui, c'est pas seulement le soir. Je profite aussi des moments où je travaille pas. Et puis, par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai plus de mal à aller au cinéma pour le plaisir aujourd'hui.
Ouais.
Donc ça, c'est le travail. En fait. Même quand je vais voir un film, même quand je vais voir Barbie, j'ai l'impression d'être au boulot quand même.
Ouais. Ok, je disais aussi ça, c'est un beau métier de regarder des films parce que c'est un peu une boutade. C'est aussi parfois ce qu'on peut te renvoyer en disant ah bah c'est cool ton boulot, tu regardes des films toute la journée, j'aimerais bien être à ta place.
Moi j'aurais tendance à dire oui, c'est quand même. Après, les regarder c'est chouette, les programmer c'est un métier. C'est pas. Là par exemple, sur les reflets du cinéma canadien, aller chercher les films c'est. C'est un travail du combattant, c'est savoir où ils sont, c'est négocier les droits, c'est trouver les intervenants qui vont avec. Donc c'est là le travail, c'est le gros du travail est là.
C'est ça dont j'avais envie de parler du métier justement, de tout ce qui est souterrain, de tout ce qui n'est pas visible, derrière le vernis du programmateur qui regarde des films, qui va au festival de Cannes. Il y a aussi tout ce travail souterrain, effectivement, qui est le gros du boulot, comme tu disais, avec plein de contraintes, en fait. On ne programme pas toujours ce qu'on veut. Alors déjà, il y a des critères, c'est-à-dire, tu l'as bien dit tout à l'heure, il n'y a pas que la subjectivité qui rentre en ligne de compte. Qu'est-ce qui va te guider, toi, dans les choix? À un moment, de te dire, OK, ça, pour ce festival ou ce coup de cœur, parce qu'il y a aussi, tu programmes aussi des coups de cœur de films à RSF dans trois salles du département toutes les semaines. Qu'est-ce qu'à un moment, te dis, tiens, ce film-là, c'est OK, je le programme.
Alors, pour les coups de cœur à RSF, donc effectivement, je programme un film par semaine au cinéma d'Evron, d'Ernée et de Château-Gontier. Et là, c'est. Mais c'est soit des films dont le réalisateur a une certaine aura, le réalisateur ou la réalisatrice, pardon, soit.
Tu veux dire que ça va pas être un inconnu, quoi.
Non, soit c'est des films que j'ai vus et que je trouve très intéressants à défendre. Donc ça peut être un premier film.
C'est quoi un film intéressant à défendre?
Ouh là là.
Je sais.
C'est un film qui propose un point de vue un peu singulier sur le monde. C'est comme ça que je l'envisage, moi. Qu'il soit. Qu'il y ait un point, j'allais dire, un point de vue politique au sens où la vie dans la cité. C'est-à-dire que si un film, moi, me secoue, même si c'est une histoire d'amour qui se passe dans un studio à Paris, mais qui raconte quelque chose de l'état du monde, ça va m'intéresser. J'ai besoin que les films soient un peu au-dessus de ce qu'ils ont à proposer en soi-même. Après, je peux proposer des choses légères, même dans ce cadre-là. Qu'est-ce qu'un film raconte du monde dans lequel on vit?
Ok. Je parlais des contraintes. Des fois, tu as envie de programmer un film, en fait, tu peux pas parce qu'il n'est pas dispo, parce que voilà, tu l'évoquais tout à l'heure, notamment pour les reflets. En fait, il faut faire aussi avec l'industrie du cinéma et toute sa complexité.
Alors sur les reflets du cinéma, effectivement, comme on fait un panorama sur le
même
cinéma,
sur les coups de cœur, excuse-moi je te coupe, mais tu me disais hors antenne que tu les programmais plutôt 3 semaines après leur sortie parce que
ça c'est parce que c'est plutôt une tradition. D'accord, ça se fait okay. ça se faisait avant que j'arrive.
Enfin, c'est pas si facile d'obtenir un film, même un nouveau film.
Alors en fait. Je sais que par exemple je n'aurais pas pu avoir Pauvre créature en première semaine distribué par Disney. Il y a des contraintes un peu lourdes pour pouvoir passer le film en première semaine. Donc, en troisième ou quatrième semaine, c'est bien sur, sur des salles comme Évron ou Ernée ou Château-Gontier. En tout cas, personne ne s'en plaint.
Voilà. Je t'ai coupé par rapport au reflet.
Non, mais par rapport au reflet, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut faire un état des lieux du cinéma contemporain. Et puis après, moi, j'interviens en faisant des focus sur des cinéastes qui m'intéressent. Ou des cartes blanches à des structures que j'aime bien ou que je trouve intéressantes. Là, c'est une autre histoire. Sur les reflets du cinéma canadien, je suis allé chercher des films au Canada directement.
Ah oui ?
Oui. Des films anglo-saxons notamment, parce qu'ils sont très peu distribués, les films canadiens anglo-saxons en France.
En
langue anglaise. Et cela, il a fallu que je remonte... la source,
la
donc voilà, faut remonter la filière, faut voir s'il est passé dans un festival français, contacter le festival.
C'est de l'enquête là.
Essayer d'avoir les ayants droit, est-ce que le film est sous-titré français. Donc.
Des fois, t'arrives pas au bout.
Oui, ça m'est arrivé sur un film là. Moi, je voulais passer un film culte sur les reflets du cinéma canadien, le film Exotica d'Atom Egoyan, j'ai pas retrouvé de copie. Donc je suis allé chercher jusqu'à la Cinémathèque de Londres, il y avait une copie 35 mm non sous-titrée, donc là ça devenait un peu compliqué pour pouvoir la passer pendant le festival.
Excuse-moi, je reviens sur le festival Les Reflets du Cinéma, qui est quand même l'événement phare de l'asso d'Atmosphère 53, festival qui existe depuis 27 éditions. Je n'ai pas dit, l'association existe depuis 1989, le festival en est à sa 27e édition et a toujours cette entrée de mettre en avant, de se faire le reflet du cinéma d'un pays ou d'un continent, d'ailleurs parfois aussi d'un sous-continent. Pourquoi avoir choisi cette année le Canada ? Parce que vous n'aviez pas encore été.
Alors ma réponse ça va être un peu triviale, c'est effectivement on hésitait et on s'est dit on n'a pas été au Canada. Mais bon après ça fait deux festivals d'affilée sur le même continent. Mais bon après le Brésil, le Canada, on remonte au nord, mais c'est le même continent. Oui, c'est un grand continent.
Là on est au nord là.
Mais voilà, et puis moi ça m'intéressait le cinéma canadien. J'ai découvert plein de choses en programmant ce festival, donc je suis ravi. Je suis ravi et je crois que c'est la 28e édition du festival. Oui. Okay.
Erreur.
À recompter, mais parce que je crois qu'on va fêter nos 30 ans.
COVID, comme il y a eu,
voilà.
On s'y perd un peu.
C'est toujours un boulot d'enquête, aller chercher des films, savoir qui les diffuse, qui a les droits, comment ça se passe. Ouais. Donc c'est un boulot assez passionnant.
Ouais. Je reviens sur le festival, c'est quand même aussi peut-être un peu effrayant au début, non ? Se dire, bon, va falloir que je fasse en 35 films, parce que c'est à peu près, en grosso modo, 35 films qui sont programmés sur le festival. En 35 films, va falloir que je fasse un reflet, un panorama équilibré, juste, d'une filmographie qui est immense, j'imagine, la filmographie des films canadiens. Comment, par quel bout on prend ça et c'est quoi les lignes qu'on suit pour justement essayer d'être... le plus juste possible, ou en tout cas, voilà.
Ben, en fait, la première chose qui m'importe, c'est de travailler sur un panorama contemporain, donc des films récents. Ça m'importe beaucoup.
La création actuelle.
Et ensuite, dans mes cartes blanches et dans les focus, je me permets des choses différentes. Mais même, je mets quand même dans mon panorama quelques films de patrimoine. Là, il y en a trois. Pour les reflets du cinéma canadien, j'ai trois films qui sont des classiques du cinéma québécois. Donc voilà, un peu de patrimoine et puis du contemporain et surtout des focus, soit sur des thématiques, soit sur des cinéastes.
Donc là, il y a trois focus sur des cinéastes.
Oui,
trois cinéastes. Il y a Cronenberg, il y a Denis Côté.
Voilà.
Et puis le dernier,
Guy Madin.
Voilà.
Donc c'est trois cinéastes atypiques, trois cinéastes qui...
Ouais, t'as été chercher du côté des atypiques, là.
Ah oui, oui, ouais. Oui, oui, clairement. Voilà, bon, je suis désolé, ce ne sont que les hommes.
Oui, parce qu'il y a aussi ça, l'équilibre homme-femme aussi, voilà. J'imagine, alors, c'est quelque chose qui est recherché.
Dans mon panorama, c'est beaucoup plus éclectique, et puis dans nos invités aussi, notre invité d'honneur, c'est Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est autrice et réalisatrice.
Qui va venir présenter en avant-première son dernier film, Chien
Exactement,
Blanc.
Exactement, Chien Blanc.
Qui va être diffusé plusieurs fois en Mayenne, elle sera là, c'est la marraine du festival.
Voilà, c'est l'invité d'honneur.
Pardon, c'est vrai que ça fait moins marraine, il y a un côté un peu old school.
Ouais, mais trois cinéastes atypiques, David Cronenberg étant le plus connu des trois, hein, Guy Madin étant un cinéaste qui est un cinéaste aimé par sa communauté, j'allais dire, Denis Côté qui est un cinéaste québécois très atypique, mais qui fait des films, d'ailleurs mon coup de cœur du programmateur, c'est un film de Denis Côté.
On y reviendra. Il y a aussi des cartes blanches qui sont données, où là c'est plus toi qui programme. En fait, tu donnes une carte blanche notamment à l'Office national du film, qui est un organisme assez extraordinaire, je ne connaissais pas, qui aide à la production de films, qui a aussi un rôle de cinémathèque et qui a été cherché dans son fond, on va dire, de films, une série de films qui seront présentés aussi au festival.
C'est ça, je les ai contactés et je leur ai demandé de me faire une carte blanche. Donc, ils m'ont proposé deux films, plus une programmation de court-métrage pour les plus jeunes.
Ouais.
Et j'ai demandé aussi à Wapikoni Mobile de me faire une programmation, Wapikoni Mobile étant une expérience autour du cinéma autochtone et super, très intéressante. Donc ils m'ont fait une très belle programmation de court-métrage.
Quelque chose qu'on n'a pas dit quand même, qui est important, c'est que cette programmation, tu ne la bâtis pas seule. Tout ce que tu programmes dans le cadre des Reflets, mais aussi dans le cadre des autres festivals dont on a parlé, le Festival du Film Judiciaire, les Rencontres Cinéma et Santé, il y a aussi une dimension collégiale. C'est vrai que l'Atmosphère 53, c'est 7 salariés, mais c'est aussi une équipe très conséquente et active de bénévoles.
Alors oui, on a des bénévoles très actifs, et puis on a effectivement des comités de pilotage et comités de programmation sur les trois festivals, sur Cinéma et Santé, sur le Festival du Film Judiciaire de Laval et sur les Reflets. Sur les Reflets, je me garde une partie de la programmation, mais effectivement une partie des films sont choisis par le comité de programmation. Sur les deux autres, c'est vrai que c'est vraiment beaucoup plus collégial, les choix sont faits après discussion. Donc c'est très intéressant aussi de pouvoir travailler avec les comités.
Pourquoi faire aujourd'hui ce que tu pourrais faire demain? Pourquoi faire aujourd'hui ce que tu pourrais faire demain? Que tu pourrais faire demain? Je pourrais faire une sieste, ma to-do list, passer le balai. Va appeler ma mère, faire du bénévolat. On va t'y prendre un café, on va t'y prendre un drink. Je pourrais prendre une marche, il fait beau soleil. Sortir dehors, ça me ferait pas tôt. Regarder une série, c'est une deuxième. Me couler un bain, me semble je le mérite.
Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on pourra faire demain ? Excellente question, posée par la non moins excellente chanteuse québécoise Lisa Leblanc, un choix parfaitement raccord avec la thématique de la 28e édition des Reflets du cinéma, qui fêtera le Canada du 15 mars au 24 mars, et dont nous continuons de parler avec Wilfried Jude, son programmateur, dans cette dernière séquence de Transistor l'émission. Une des particularités des Reflets aussi, on ne l'a pas dit, c'est que c'est un festival itinérant. En fait, vous allez vous balader sur les 11 cinémas du département.
Oui, c'est la particularité de ce festival, c'est qu'il est sur tous les cinémas du département, effectivement. Donc, alors évidemment, il y a deux cinémas qui... Enfin, il y a deux villes qui passent tous les films.
Laval.
Laval et Mayenne. Ensuite, c'est Évron, Château-Gontier, et ensuite les autres salles. D'accord. Qui passent aussi, qui participent aussi. Au festival.
Ouais. Est-ce qu'on pourrait, je sais que des fois les programmateurs n'aiment pas isoler comme ça un film parmi d'autres, mais est-ce qu'on pourrait parler, tu nous en as parlé tout à l'heure d'ailleurs, d'un coup de cœur, voilà, un film que t'encouragerais le public à aller voir, un film immanquable ?
Bah, y en a plein.
Mais... c'est ça, il y en a 35.
Ils sont tous très bien. Mais moi, mon coup de cœur de cette année, c'est un film qui s'appelle Mademoiselle Kenopsia, qui est un film de Denis Côté, donc, qui est un film étrange et pénétrant. Un film sur la sensation d'abandon qu'on a sur des lieux vides. Donc voilà, moi j'ai vachement aimé. C'est un film évanescent, c'est un film mélancolique, c'est une expérience, exactement. Mais voilà, après, moi je ne peux encourager les gens qu'à venir voir tous les films du festival qui sont très différents et très complémentaires.
Et on peut venir aussi en famille, parce qu'il y a une programmation jeune public, les petits reflets avec une sélection de films aussi, bien sûr tous canadiens, qui est proposé aussi dans le cadre du festival.
Alors tout à fait, on a deux programmes. On a un programme pour les 3-6 ans, qui est un programme d'un grand cinéaste canadien anglophone qui s'appelle Norman McLaren, enfin qui n'est pas canadien à la base, mais qui a fait toute sa carrière au Canada.
D'accord.
Qui a rejoint l'ONF, donc l'Office National du Film, et pas celui des foirés. voilà.
C'est vrai qu'avec l'affiche qui représente des grands sapins, on pourrait s'y faire.
Voilà. Et donc, il a fait du cinéma expérimental et du cinéma d'animation. Et c'est quelqu'un, c'est super beau pour les petits, c'est très très beau. Et un programme pour les 7-11 ans, qui est un florilège de courts-métrages d'animation canadiens.
Il y a aussi, j'y repense là aussi, une part qui est importante qui est donnée au documentaire. On sent que c'est un genre qui... beaucoup là, dans nos discussions. C'est un genre dont t'es familier,
oui.
Que t'as bien représenté dans la programmation, je trouve.
Mais pour avoir fait un peu d'écriture documentaire, personnellement, quand j'ai fait cette mini-série d'écriture documentaire en 2017, oui, le documentaire, ça me semble important d'en montrer aussi, évidemment. Ben, montrer du documentaire, un peu de cinéma d'animation, de la fiction. Et en plus, au Québec, en tout cas, il y a une tradition du cinéma direct. Donc, c'est une partie...
Le cinéma direct ?
C'est un cinéma qui s'écrit au montage, c'est-à-dire qu'on filme beaucoup, pas d'intervention.
On capte
pas brut, d'intervention du réalisateur, c'est-à-dire pas d'interview, pas d'écriture à proprement parler. On va essayer de chercher le réel là où il se situe, et ensuite on écrit le film au montage. Et donc il y a une tradition au Québec de ce cinéma-là, donc ça me semble important d'en parler.
Il y a plein de rendez-vous aussi qui ne sont pas des films, parce que les reflets, c'est aussi bah, la célébration d'un pays, d'une culture. Donc il y a aussi des expos, des concerts, des ateliers cuisine. Voilà, il y a plein de choses voilà, en lien avec, avec aussi les, le comité de jumelage Laval-Québec qui fête aussi, aussi un anniversaire cette année. Donc vous en avez profité pour vous associer à eux.
Tout à fait. C'est les 40 ans du comité de jumelage Laval-Québec. Et comme la ville de Laval fait des saisons pays, comme c'est des saisons culturelles pays.
Ouais, dédiées à un pays.
Dédiées à un pays, là, effectivement, sur le printemps 2024, c'est le Québec. Et donc on s'est associé à eux pour faire, pour proposer des, de l'action culturelle, donc atelier cuisine, comme tu disais, village canadien. J'ai pas tout en tête là.
Il y a un programme assez assez conséquent.
Il y a un programme assez conséquent.
Ça va être difficile d'être exhaustif.
Et puis c'est voilà, il y a des choses avec avec la saison québécoise. Beaucoup de choses donc avec le réseau des bibliothèques il y a des expositions d'art plastique
C'est l'occasion aussi et ça c'est votre savoir-faire de travailler en partenariat avec plein de gens, de mettre des gens en réseau, de s'appuyer sur leurs compétences, de les mettre en valeur aussi à travers le festival. Il y a aussi cette dimension-là, vous ne travaillez pas tout seul quoi.
Oui, on essaye de s'associer avec des partenaires.
Il y a vraiment une notion partenariale très forte.
Oui, oui, même y compris avec nos cinémas. C'est-à-dire on essaye de travailler avec les structures culturelles. En général, je parle à l'année, on essaye de travailler sur avec les structures culturelles telles que le kiosque à
Mayenne.
À Mayenne, le carré à Château-Gontier,
le théâtre,
théâtre à Laval. Donc on aime le 6 par 4. Voilà, donc on essaye, oui, on maille le territoire aussi avec nos pairs culturels.
Yes. Alors l'ensemble du programme très conséquent dont on vient de parler, il est disponible en version papier un peu partout et aussi sur le site, très bien fait, des reflets du cinéma. Merci Wilfried pour cet accueil, pour ton accueil ici, pour ce moment passé ensemble. Et puis on peut vous souhaiter à toi et à toute l'équipe des reflets et de l'atmosphère un très bon festival. Un grand merci aussi à Margot et Joël qui a assuré avec brio le montage de cette émission. Une émission que vous pourrez retrouver ainsi que toutes les précédentes en réécoute sur notre site transistor.org. Rendez-vous en avril pour une prochaine émission en live au Carré à Château-Gontier avec sur scène les groupes Sejin, Oxo et Club Mutant. D'ici là, faites de beaux rêves.
L'émission.